On est content de retour. Nous étions la semaine passée donc à Québec pour une activité. On va vous expliquer un peu aujourd'hui justement qu'est-ce que nous avons vécu là-bas aussi à travers cette activité, cette conférence que Dieu a permis que nous puissions avoir. On continue donc dans ce thème. Que ce thème central que nous avons pris pour cette année, restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. La semaine passée, notre frère Antoine a partagé sur les versets 6 et 7 d'Ésaïe 58, qui est notre texte biblique pour ce temps. Et ces versets que nous allons encore regarder un peu au cours d'aujourd'hui, comment mettre en pratique, comment vivre réellement ce jeûne que le Seigneur nous préconise. Je vais continuer sur ce thème, donc justement de développer notre relation avec les autres, mais j'ai été interpellé de vous partager sur le thème que nous avons entendu la semaine passée, justement, lors de la conférence où je suis allé à Québec. C'était une conférence sur l'évangélisation qui se déroule à chaque année. C'est un temps où on est encouragé, formé à partager l'évangile aussi dans le contexte québécois, qui est différent avec des façons peut-être nouvelles, des approches nouvelles, mais aussi surtout pour pouvoir continuer de propager la bonne nouvelle. Et on a pu entendre des témoignages de différentes personnes qui nous ont dit comment que Dieu agit lorsqu'il parle, lorsqu'il présente l'évangile, lorsqu'il témoigne à travers leurs actes, à travers leurs paroles, le Seigneur. Et le thème de la conférence était l'évangile que je crois, que je vis, que je proclame. Donc, le premier conférencier a partagé sur l'importance de croire de ce que nous apprenons de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit, l'évangile que je crois. Il partageait justement le défi que souvent nous avons cette connaissance, c'est-à-dire que nous recevons à travers l'Église, à travers les conférences, à travers les partages les uns les autres, on est rempli de la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, des directives, des valeurs de Dieu. Toute cette connaissance est bonne, mais ensuite, il faut qu'elle fasse un travail en nous. Le problème souvent, c'est que cette connaissance reste au niveau de la tête. C'est-à-dire que nous avons entendu cette connaissance, mais elle ne descend pas dans notre cœur. Le cœur, c'est là où est justement l'âme, où est justement ce désir d'être proche de Dieu, ce désir d'être transformé par le Seigneur. Ce qui fait que si ça reste au niveau de la tête, c'est une belle théorie, c'est des bons messages, mais qui ne vont pas forcément nous changer, nous transformer. Il disait justement que le mensonge, les blessures, l'incrédulité empêchaient que cette connaissance vienne dans le cœur et fasse son effet. Oui, parce que jour après jour, on a vécu avec toutes sortes de situations dans notre vie. Et cette connaissance, si elle reste dans la tête, si elle ne descend pas dans le cœur, elle ne va pas commencer à nous changer par rapport à nos incertitudes, par rapport à nos blessures, par rapport à tout ce que nous vivons. Parce que c'est en descendant dans le cœur, par la foi, que nous allons expérimenter cette parole. Donc, ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 10. Ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22 dit: Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc ce verset nous dit de nous approcher librement de Dieu avec un cœur sincère, un cœur droit, c'est-à-dire un désir réel d'être transformé, d'être lavé dans cette eau. Lorsqu'on lit ce verset, c'est vrai qu'on a cette image du baptême, hein? Lorsqu'on s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? On a comme plongé dans l'eau, comme pour que l'eau comme nous lave de nos péchés, nous purifie notre vie. Et on le fait avec un cœur sincère, par la foi. Parce que c'est vrai que lorsque vous plongez dans l'eau, ça ne change rien, entre guillemets, dans votre physique. Même si on dit que le cœur est lavé, que nous sommes pardonnés, physiquement, on ne voit rien, à part peut-être c'est sur la joie, la confiance que nous exprimons. Mais c'est par la foi que nous croyons que lorsque nous plongeons dans l'eau et que nous revenons, que nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu, du Saint-Esprit, et que nous sommes lavés, changés, transformés, que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, si nous revenons à cet évangile que je crois, si cet évangile descend dans le cœur, c'est-à-dire que si nous la comprenons, si on désire se conformer à ce que dit cette parole, si on désire qu'elle soit notre guide, alors comme dans Romains chapitre 1, ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 1, verset 17, il y a des petites feuilles en arrière si vous voulez marquer les différents textes bibliques pour pouvoir continuer la réflexion durant la semaine. Romains chapitre 1, verset 17, qu'il dit, elle est reçue par la foi et rien par la foi. Comme le dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Paul va dire au début de son épître, de sa lettre aux Romains, cet évangile, cette grâce, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc on sait que la foi, ce n'est pas quelque chose de tangible, dans le sens, ce n'est pas quelque chose qu'on touche puis qu'on sait qu'elle est là. La foi est personnelle. Elle s'appuie uniquement sur de croire à quelque chose qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas visible, mais qu'on croit, qu'on vit, qu'on ressent quelque chose. La foi, elle est personnelle parce qu'on ne peut pas la transmettre à nos frères, à nos enfants. Oui, on peut l'encourager à vivre dans cette foi, mais on ne peut pas lui dire, ben, je te donne une partie de ma foi ou toute ma foi comme je te lègue mon argent ou je te lègue mes biens. Il faut que la personne aussi développe elle-même cette foi. Donc dans ce verset, il est dit que l'évangile est reçu par la foi et rien que par la foi. Voilà donc la connaissance de la parole, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance des valeurs chrétiennes qui est dans notre esprit que nous avons reçu et descend dans notre cœur à travers la foi. Et lorsque par cette foi-là, nous croyons que Dieu est en train de transformer notre vie intérieure, même si j'ai jamais vu Dieu, même si jamais vu Jésus-Christ, je crois par la foi qu'il est en moi et qu'il me change. L'autre défi que nous avons de la connaissance dans notre tête, c'est que nous sommes souvent encouragés à la mettre en pratique. On nous dit toujours, il faut maintenant que vous avez reçu cette parole, la mettre en pratique. Et nous voulons tous le faire, mais souvent, on le fait d'une façon un peu biaisée. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup au Québec, on appelle ça du bypasser. Ça veut dire de passer à côté. Par exemple, lorsque j'étais en Haïti, je voyais souvent que les gens mettaient des fils depuis les poteaux électriques directement chez eux pour pas avoir besoin de passer à travers le compteur. Comme ça, ben, ils ne payaient pas l'électricité. Hein? Tu voyais partout des fils qui traînaient partout, puis tu savais pas très bien où ça allait. Mais c'est comme ils bypassent le compteur pour pouvoir avoir l'électricité gratuite. Mais souvent, des fois, on fait comme ça avec Dieu ou dans notre façon d'agir. C'est que nous avons la connaissance, mais on ne va pas à travers le cœur, mais on passe à côté du cœur pour pouvoir directement mettre en action. Mais le problème, c'est que cette action, elle vient, c'est le résultat de la connaissance, c'est le résultat de ce que nous avons entendu. Mais si elle ne rentre pas dans notre cœur, le problème, c'est que cette action sera faussée ou cette action ne va pas durer. Combien de fois que nous avons vu des fois des chrétiens qui étaient feu et flamme au début de leur vie chrétienne, mais qui, à un moment donné, n'arrivent pas à se développer? Combien de fois que nous avons vu des chrétiens peut-être partager l'évangile, mais que ça n'a pas duré? Ça a duré peut-être 2, 3 jours, puis après, ils ont arrêté. C'est comme si ils voulaient mettre en pratique cette connaissance sans réellement un changement dans leur cœur. Revenons à Romains chapitre 1, les deux versets tout avant. Romains chapitre 1, versets 15 et 16. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. Donc dans ce texte, Paul, au début de sa lettre aux Romains, explique l'importance que cet évangile est une puissance. Mais pour qu'elle soit puissante, justement, il faut qu'elle agisse. Il faut que quelque chose se passe. Mais si cet évangile reste au niveau de la tête, comme on l'a expliqué auparavant, ça reste une connaissance. Mais ce travail de changement, de renouvellement, de restauration ne se fait pas entièrement. Cette puissance de Dieu ne peut pas agir. Si on désire, comme il est dit dans ce verset 16 de Romains 1, que cet évangile soit une puissance qui sauve, ce n'est pas la connaissance qui va nous sauver, c'est la foi seule. Lorsque je reçois, que je comprends que ce que Jésus a fait dans ma vie, lorsque cet amour de Dieu rentre en moi, me change, me transforme, lorsqu'il descend dans mon cœur, qu'il bouleverse ma vie, qu'il y a quelque chose, un feu passionné pour le Seigneur qui émerge, alors oui, cet évangile vient d'une puissance. Elle fait quelque chose en moi, elle va faire quelque chose vers les autres. Donc, c'est pourquoi que tant que nous n'avons pas réellement compris tout l'amour de Dieu, que nous l'avons expérimenté d'une façon personnelle, pas juste avec la tête ou la connaissance, mais que cet amour bouillonne en nous, de reconnaissance de ce que Jésus a fait dans notre vie, lorsqu'on réalise tout ce que Dieu nous a donné, lorsqu'on tombe à genoux devant lui, dans la repentance pour accepter cette grâce, alors cette puissance de l'Évangile est présente. Elle va nous faire grandir, porter du fruit par la foi. Tant que la relation avec Dieu n'est pas complètement comprise ou vécue, il se peut que notre relation avec les autres soit compromise, ne soit pas complète dans ce que Dieu désire pour nous. Voilà pourquoi que avant d'aller restaurer notre relation avec les autres, il faut restaurer notre relation avec Dieu. Parce que sinon, c'est juste peut-être une mise en action de quelque chose qu'on a entendu, mais qui ne sera pas réellement vécu. Comment est-ce que nous pouvons partager l'amour de Dieu réellement, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la joie, la paix de Dieu, si nous ne l'expérimentons pas nous-mêmes? Si Dieu ne met pas en nous réellement ce désir. Le deuxième sujet de cette conférence sur l'évangélisation était l'évangile que je vis. Donc l'évangile que je crois, que j'ai entendu, qui a peu besoin de passer à travers le cœur. Maintenant, l'évangile que je vis, comment que l'évangile se vit? Le conférencier disait que dans Romains 1, Paul s'adressait à des Juifs qui connaissaient Dieu. Donc on peut aussi, nous, avoir le titre de chrétien, de croire en Dieu, mais de vivre dans le mensonge. Dans le sens que nous n'arrivons pas à mettre en pratique cet évangile qui sauve, cet évangile qui transforme. Romains chapitre 12, verset 1, un texte que nous connaissons bien, Romains chapitre 12, verset 1, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Donc, dans ce verset, il nous invite à offrir notre corps comme un sacrifice. Un sacrifice, ça demande quelque chose, ça demande une action, ça demande quelque chose qu'on doit faire. Pas juste, peut-être juste quelque chose qui nous coûte pas, mais un sacrifice, c'est quelque chose qu'on veut lui donner à Dieu, réellement, tout notre corps, qui plaise à Dieu. Cette culte, cette célébration que nous allons faire envers Dieu, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Qu'on vienne comme on fait ce matin, mais aussi à chaque jour, à chaque instant, que cet évangile, on puisse le vivre comme un culte spirituel, comme un culte raisonnable pour le Seigneur, à travers nos corps, à travers notre esprit, à travers notre âme. Alors, je peux comprendre que je peux faire toutes sortes de choses, autant à l'église que vers mes amis pour annoncer l'évangile. Mais si on n'a pas cette véritable adoration envers notre Dieu, alors c'est en vain. Et c'est ça le message d'Ésaïe 58, du reproche de Dieu envers son peuple. Son peuple connaissait Dieu, il avait la connaissance. Mais lorsqu'ils s'approchent de Dieu, même qu'ils veulent entendre Dieu, ils veulent faire un jeûne, ils veulent pouvoir recevoir les directives de Dieu. Mais Dieu leur dit, c'est pas comme ça que vous allez me trouver, parce que votre cœur n'est pas là. Parce que pendant que vous êtes en train de faire le jeûne, vous continuez de faire les choses à la même manière qu'avant. Vous avez des colères, vous avez de la méchanceté envers les autres. Vous traitez durement aussi votre voisin ou votre personnel. Aujourd'hui encore, on peut dire, voilà pourquoi que beaucoup de chrétiens, peut-être qui végètent un peu ou qui n'avancent pas dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais ils ne veulent pas que vraiment cet évangile puisse vivre en eux. Ils ne veulent pas offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Donc l'évangile est avant tout pour chacun de nous, pour moi, pour toi, pour que je puisse vivre cet évangile, pour que je puisse le mettre en pratique dans ma vie, pour que cet évangile me transforme, me rend juste selon la volonté de Dieu. Et c'est Ésaïe va dire dans les versets 6 et 7 du chapitre 58, Dieu va dire, voilà le jeûne qui me plaît. Voilà comment votre vie me plaît lorsque vous faites ceci. Les points que nous retrouvons dans ces deux versets nous enseignent de comment je vis l'évangile au quotidien, comment je le mets en pratique dans ma vie vers les autres. Non pas parce que c'est une action, parce que le pasteur ou quelqu'un le demande, mais c'est parce que la vie en Dieu est descendue dans mon cœur, m'a changé, m'a transformé. Et à cause de cela, je porte du fruit vers l'extérieur, à travers mes gestes, à travers mes paroles, à travers mon témoignage, mes actions. Et les gens autour de nous vont le voir. La troisième conférence de la semaine passée était l'évangile que je proclame. Donc on voit une suite. L'évangile que je crois, l'évangile que je vis moi-même, et maintenant l'évangile que je proclame. Si l'évangile que je crois vient me transformer dans mon cœur et mon être, si ensuite cet évangile continue de me transformer, comme on appelle la sanctification dans le milieu de méthodiste, pour devenir un véritable disciple de Jésus, alors je peux faire après l'évangile que je proclame. Alors cet évangile après n'est pas simplement juste une théorie, n'est pas juste quelque chose que je vis pour moi et que je ne peux pas le dire aux autres. Le conférencier a dit que le niveau de notre foi, de notre cœur, va affecter notre évangélisation. Le degré, le niveau de notre foi va affecter notre degré d'évangélisation. C'est-à-dire que si nous avons une foi basse, peu, mais notre évangélisation va être limitée. Si nous avons une grande foi parce que nous voyons comment que Dieu nous a transformés, Dieu a fait tellement de choses en nous, alors cette évangélisation, ce désir de proclamer vers les autres va être grand. Oui, c'est vrai qu'on peut évangéliser par la tête, dans le sens qu'on le fait parce que le pasteur ou l'église le demande. On sait tous qu'on a besoin de partager l'évangile, d'évangéliser. Mais souvent, on ne le fait pas, ou souvent, on le fait, mais sans forcément le cœur. Et ce sont des fois des paroles creuses, des paroles qui n'ont pas d'impact envers l'autre personne. Le conférencier disait aussi que plus nous vivons sous la grâce de Dieu, plus notre évangélisation va être radicale. Plus on comprend tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous transformer, plus cette grâce, plus cette bonté de Dieu coule en nous, plus notre évangélisation va être radicale, dans le sens que plus notre évangélisation va être performante, va être puissante, parce que Dieu agit en nous et Dieu va agir à travers nous vers les autres. Souvent, on nous dit, souvent, on m'en dit aussi, pasteur, il faut encourager plus les gens à évangéliser. C'est vrai que souvent, je dis de l'importance de le faire. Mais depuis quelque temps, à travers le thème aussi que nous vivons, à travers ce thème de restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres, je ressens que notre évangélisation va dépendre de notre attachement à Dieu, de la mise en pratique de cette connaissance que nous avons qui change nos cœurs et qui va se produire vers l'extérieur. Parce que si on met réellement en pratique les versets 6 et 7 d'Ésaïe, comme notre frère Antoine l'a expliqué la semaine passée, regardez, ouvrons notre Bible dans Ésaïe 58 encore pour rappeler ces deux versets. La proclamation, c'est vrai, c'est aussi à travers la parole, mais c'est aussi à travers la proclamation de notre être, de nos exemples, de nos témoignages. Le verset 6, il dit, libérez les gens enchaînés injustement. Enlevez le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Supprimez tout ce qui les rend esclaves. Tous ces points de ces versets va se faire en premier dans la prière. Car c'est là que commence le combat pour libérer, délivrer ces personnes de ces jougs. C'est aussi de l'évangélisation, ça. C'est parce que on travaille, Dieu travaille à travers nous pour pouvoir libérer les gens. Et on ne pourra pas le faire si on ne passe pas du temps avec eux. Comment est-ce qu'on peut libérer les gens? Comment est-ce qu'on peut rendre la liberté à ceux qu'on écrase? Il faut connaître leur histoire. Il faut connaître c'est quoi leurs besoins. Il faut passer du temps avec eux pour prier, intercéder avec eux, mais aussi à la maison, avec l'Église, pour continuer de dire, Seigneur, continue ton œuvre en œuvre dans ces personnes, afin que, Seigneur, cette connaissance de ce que je leur parle ne reste pas dans la tête, mais descende dans leur cœur, change leur cœur. Ce n'est pas en comptant rien de telle personne qu'elle va nous enchaîner. Oui, il faut faire attention de pas simplement de faire un compromis avec ces personnes. Donc, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu lorsqu'on va vers des personnes qui ont peut-être des choses qui les enchaînent, des choses qui les rendent esclaves, des idoles qu'ils n'arrivent pas à enlever. On a besoin d'être prêt pour aller vers eux. Mais lorsqu'on prend le temps d'être là, lorsqu'on prie, lorsqu'on va avec le Saint-Esprit, Dieu fait un travail parmi ces personnes. Puis au verset 7, il dit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce ne pas se de détourner de celui qui est ton frère. Ces points-là, oui, on peut prier, mais ces points-là, c'est plus une action directe que nous allons faire vers ces personnes. Nous pouvons prier à Dieu, Dieu, donne à manger à mon voisin qui est pauvre. Dieu peut le faire, mais Dieu peut-être de dire, ben, écoute, moi je t'envoie vers eux. Donc tu peux prier, mais je t'envoie d'aller amener de la nourriture à cette personne. Donc ces points dans le verset 7, sont le résultat de cet évangile que je crois, que je vis et que je proclame à travers mes actions, mais aussi à travers mes paroles, d'exprimer ce que je crois en Dieu, ce que Dieu fait dans ma vie. Voilà pourquoi que justement, si on revient dans Romains chapitre 1, versets 15 et 16, ce que Paul veut dire aux Romains, voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui se vit, l'évangile qui transforme. À vous qui êtes à Rome, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Paul en a dit, écrit à des chrétiens qui justement ont compris l'évangile, qu'ils croient à cet évangile, mais il veut leur dire, nous devons être fiers de cet évangile et nous voulons que cet évangile puisse continuer à transformer les gens autour de nous. Nous sommes appelés à être fiers de ce que Jésus a fait dans ma vie, de pouvoir le partager auprès de mes frères et sœurs dans la famille, auprès de mes voisins, de mes collègues de travail. Et nous arrivons dans un temps de Pâques. Pour nous qui entendons pour les chrétiens, un temps spécial. Parce que c'est là qu'on se rappelle pourquoi que nous sommes chrétiens. Parce que Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie. On se rappelle que dans ce temps de Pâques, Jésus a été jusqu'au bout. Il s'est sacrifié, lui, le Fils de Dieu, lui qui était sans péché. Il a accepté de mourir pour nous qui étions injustes, qui étions dans le péché, pour nous donner la vie, pour nous pardonner, pour nous laver et de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Sa mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Sa résurrection le troisième jour pour nous donner la vie pour l'éternité, nous devons le proclamer. Et voilà pourquoi que, justement, avec le conseil officiel, on partageait cela hier. On est encouragé à prendre les deux prochains samedis durant l'après-midi, à venir ici, à venir simplement partager cet évangile autour de nous, de partager cette espérance de Pâques autour de nous. Même si peut-être vous n'avez jamais fait cela, ne vous inquiétez pas, on va être plusieurs personnes, on va aller à deux par deux. On aura différentes façons de partager l'évangile, que ce soit peut-être par rapport à un petit cadeau qu'on offre, peut-être par un sondage pour simplement approcher les gens. On a des différentes approches pour permettre de simplement briser un peu la glace qu'on pourrait dire avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on va simplement partager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors certains vont dire, ben, pasteur, écoute, c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, j'ai un programme, j'ai la famille. C'est vrai qu'on a tous quelque chose à faire. Mais lorsque je préparais cela, c'est comme une pensée qui me disait, puis le jour où je vais être devant le Seigneur, et le Seigneur va me poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec l'espérance que je t'ai donnée? Comment tu as vécu l'évangile que je t'ai donné? Comment est-ce que tu l'as proclamé? Mais Seigneur, écoute, j'ai tellement de choses à faire. Donc, je n'ai pas eu le temps. Ou j'ai eu le temps juste peut-être quelques minutes. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, ce n'est pas pour vous mettre une pression. Mais l'évangile que nous devons proclamer, nous devons le faire. Alors voilà pourquoi je vous encourage. Je vous encourage à peut-être venir samedi prochain ou le samedi suivant pour prendre juste un moment, 1 heure, 2 heures, pour simplement dire, je veux aller proclamer par mes paroles, mais par mon amour, par la paix que je développe, par la joie que j'ai vers les gens qui sont autour de nous. Et lorsqu'on le fait, Dieu prépare ces personnes. Dieu prépare les personnes que nous allons rencontrer. Nous allons peut-être avoir une occasion de partager notre foi. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le faire parce que peut-être que la personne n'est pas disponible. Mais nous allons faire le travail que Dieu nous demande, que le Seigneur nous demande. L'évangile que je crois me transforme pour que je vive cet évangile, pour que cet évangile, je le proclame. Alors retournons dans Hébreux chapitre 10, verset 22, pour prendre cette sainte scène. Hébreux 10, verset 22, il dit, nous approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce texte nous montre plusieurs points importants. Le cœur droit et sincère. Un cœur droit dans le sens que dit oui Seigneur, si je me dis chrétien, si je veux confesser que tu es mon Seigneur, je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon avec un cœur humble, un cœur repentant, mais un cœur qui est droit pour toi. Il est dit avec une pleine assurance que donne la foi. La pleine assurance des promesses, des paroles que Dieu nous donne. La ferme conviction que Jésus-Christ est là présent avec nous. Que le Saint-Esprit est là, il est là pour nous montrer le chemin vers le Seigneur. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Seule la nouvelle naissance, on dit, qui peut produire cet effet. À travers aussi ce rappel de la Sainte Seine, ce sang qui a coulé, nous permet d'être purifiés. Le corps lavé d'une eau pure. Le corps représente notre vie. L'eau pure se rapporte soit à la parole de Dieu, soit au Saint-Esprit, soit le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu. On a besoin que cette eau pure, cette parole du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, continue de nous laver, de nous transformer. Alors avant de prendre le repas du Seigneur, je veux simplement que nous puissions courber notre tête et prendre juste quelques instants de silence. Et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Peut-être que je te connais depuis très longtemps. Peut-être ça fait juste quelques mois ou quelques années. Mais aujourd'hui, tu veux que je puisse, cet évangile que je crois, qui a changé ma vie, réellement change aussi mon cœur. Change vraiment toute mon attitude, ma façon d'être. Que je puisse vivre cet évangile. Et que je puisse aussi le proclamer. Alors, laissons le Saint-Esprit nous parler, nous montrer peut-être un point, peut-être quelque chose que on a besoin de simplement lâcher prise, de laisser devant le Seigneur. À travers le repas du Seigneur, nous présentons devant lui pour demander sa grâce, son pardon. Il veut effacer justement les transgressions, il veut effacer nos péchés, il veut effacer peut-être ce manque d'ardeur, de patience pour le Seigneur, pour nous permettre de vivre cette puissance avec le Seigneur. Encourager ce matin à venir avec ce cœur sincère. Et avant que on prenne le repas, j'aimerais vous partager un petit témoignage. J'ai déjà partagé cela dans le groupe de prière. La plupart savent que nous vivons des temps difficiles avec nos propriétaires. Nous avons vraiment ressenti que Dieu nous appelait là-bas, à contre-cœur, que Dieu nous avait préparé cette place dans cet appartement. Du premier temps, ça allait bien, et à un moment donné, le caractère, le tempérament, la relation avec le propriétaire a changé. Nous croyons qu'il y a aussi ces attaques aussi spirituelles. Vous avez su qu'il voulait vraiment nous faire sortir de l'appartement. Il nous a envoyé deux fois devant le tribunal, deux fois nous avons gagné. Et malgré cela, il continuait. Et à un moment donné, Nicole était dans le jardin en train de faire quelque chose, de préparer ses fleurs et comme ça. Et puis le voisin, il est toujours en train de checker de ce qu'on faisait, tout ça, est venu vers Nicole. Elle a commencé à lui parler vraiment d'une façon vraiment bête et forte. Et puis Nicole disait, non, écoute, ça m'intéresse pas d'entendre ce que tu dis, laisse-moi être tranquille. Puis il continuait, continuait. Et même qu'elle s'est déplacée, il continuait d'être derrière, de dire toutes sortes de choses. Et puis c'est sûr que ça ébranlait beaucoup Nicole. Et par après, donc elle est rentrée dans l'appartement, puis elle nous m'a appelé. J'étais ici à l'église, au bureau. Et quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment fâché. J'étais vraiment fâché. Je dis, comment ça se fait que le propriétaire peut harceler ma femme? Et j'ai voulu l'appeler et je me suis dit, ben, je vais descendre. Je vais descendre ici dans l'église pour pouvoir déranger ce qui était dans le bureau. Et je l'ai appelé pour lui dire, mais écoute, il ne faut pas que tu fasses ça envers ma femme. Si tu as un problème, tu viens vers moi. Et comme c'est sûr que nos relations étaient un peu tendues, ben, le ton a monté. Le ton a monté, et puis moi j'ai commencé aussi à monter le ton parce qu'il ne voulait pas écouter, etc. Et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai même crié contre lui. J'étais vraiment fâché, en colère. Mais j'étais ici, dans la maison de l'Éternel. C'est ça l'évangile qui vient. Moi-même, j'avais encore besoin d'être encore transformé. Sur le moment, je n'ai pas compris réellement. Parce que je priais, mais Dieu, pourquoi quelque chose comme ça? Pourquoi que Dieu, tu permets de telles choses? Et plus tard, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Même si il m'a provoqué, même s'il a provoqué Nicole, même s'il fait du mal, il me blesse, il me persécute, je dois rester fidèle à Dieu. On voit comment que c'est facile d'avoir les paroles, la connaissance, mais que cet évangile nous transforme. Ça a besoin du temps. Même moi, après des années, même en tant que pasteur, je reconnais que j'ai encore besoin de dire, Seigneur, viens me transformer. Viens que cet évangile que je crois, mais réellement se vit. Et lorsqu'on a décidé, lorsqu'on a senti qu'il fallait, au lieu de toujours peut-être, pas forcément maudire le propriétaire ou se fâcher contre lui, mais commencer à le bénir, à prier pour lui, Dieu a commencé à faire des choses différentes. C'est vrai que ce n'est pas encore rose, c'est pas encore, il y a encore des défis, mais on voit que son attitude a changé. C'est beaucoup plus calme qu'avant. On a besoin de vraiment vivre jour après jour cela. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc, il faut être capable de se repentir, il faut être capable d'aller devant son trône et de dire, Seigneur, Seigneur, je suis un pécheur, je suis un homme tout simple qui a encore besoin encore de ta grâce. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ce repas en se rappelant encore que dans cette année 2025, de se rappeler que Jésus vient encore pour nous transformer, vient encore pour restaurer notre relation avec Dieu. Mais il veut qu'après, à travers cela, notre relation avec les autres aussi soit améliorée, soit changée, pour que le monde voie, que le monde voie l'Église, que le monde voie les chrétiens qui sont de véritables disciples, qui loue le Seigneur, qui loue Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il faut que ce texte d'Ésaïe 58 soit vraiment quelque chose qu'on désire faire. Seigneur, je veux te faire le jeûne qui te plaît. Je veux agir selon toi. Je veux faire les actions qui te plaisent avec un cœur droit et sincère, en toute humilité, sachant que tu es grand, tu es puissant. Alors nous sommes invités à prendre ce pain qui représente son corps, ce jus qui représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Mais que nous continuons à dire, Seigneur, je veux cette fois-ci encore venir humblement devant toi. Il y a peut-être quelque chose que j'ai fait cette semaine, peut-être envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants, peut-être envers mon collègue que j'ai ignoré, qui lançait un cri d'alarme par rapport à une situation, ou mon voisin qui était là, ou une connaissance qui passe par des moments difficiles, et je l'ai ignoré. je te demande pardon. Fais que, Seigneur, cette semaine, tu me donnes encore une deuxième chance d'aller vers ces personnes et de proclamer cet évangile de puissance. Alors, on vous invite, je vous invite à venir chercher les éléments. Le fait de se lever nous montre que oui, Seigneur, on veut venir devant toi. On veut reconnaître qu'on a encore besoin d'être changé, transformé par toi. Faisons cette déclaration, écoutons cette déclaration de foi pour nous aussi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui, dans ta grande miséricorde, a promis le pardon à tous ceux qui se tournent vers toi avec une repentance et une foi sincère. Sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous et délivre-nous de nos péchés. Fortifie-nous et rends-nous fidèles en toute bonté et conduis-nous dans la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour souffrir la mort à la croix pour notre achat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à la table par obéissance à ton Fils, Jésus-Christ, qui, dans ton Saint-Évangile, nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous te demandons humblement de nous accorder, en prenant ce pain et cette coupe, comme il a été ordonné, en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Oui, Seigneur, on te remercie encore aujourd'hui de pouvoir participer à cette table où tu nous rappelles ce que tu as fait sur la croix. Oui, nous sommes dans ce temps pascal où nous allons nous rappeler tout ton cheminement jusque sur la croix, tout ce que tu as vécu et comment le troisième jour tu es ressuscité. Mais nous voulons venir encore humblement ce matin pour encore demander encore ta grâce, Seigneur, sur nous, afin que nous puissions vraiment vivre cet évangile, que nous puissions pas juste le croire à travers juste la tête ou une connaissance, mais qu'il change notre vie jour après jour, qu'il nous transforme, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Merci pour ce pain qui représente ton corps, ce corps qui a été brisé. Toi, le Fils de Dieu, tu as accepté d'aller jusqu'au bout, persécuté, maltraité, injurié pour nous. Merci pour cette coupe qui représente ton sang qui a coulé pour nous laver de nos péchés. Et encore aujourd'hui, Seigneur, on a besoin encore de demander encore ta grâce, ton pardon sur des péchés, des manquements dans notre vie, sur des choses que nous ne faisons pas selon toi. Permets, Seigneur, que cette puissance de l'évangile comme nous l'avons vu, puisse rayonner en nous, puisse continuer de se propager à travers nous vers les autres. Et que dans ce temps de Pâques, Seigneur, nous puissions encore dire et oui, redire, Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Seigneur, nous croyons encore que cette puissance de l'Évangile veut encore transformer des hommes et des femmes autour de nous dans cette année. Nous voulons faire partie de ce peuple qui se lève, de ce peuple qui t'adore vraiment d'un cœur sincère, de ce peuple, de ces hommes et de ces femmes qui vont proclamer haut et fort, à travers leur action, à travers leurs paroles, à travers leur témoignage, qui tu es. Oui, Seigneur, nous voulons faire une différence pour toi encore cette année. Alors donne-nous le discernement, donne-nous la prière audacieuse pour pouvoir prier les uns pour les autres, pour prier peut-être spécifiquement pour une ou deux personnes. de notre entourage, que tu nous mettras à cœur, que nous puissions prier pour commencer à aller vers elle, pour pouvoir simplement proclamer que tu es le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, à la fin de ce culte, Seigneur, on veut simplement encore demander encore que cette grâce, cette bonté, cette bénédiction que tu veux nous donner soit sur nous, reste sur nous, demeure sur nous, aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Nous te disons un grand merci. Nous t'adorons pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire pour chacun de nous. Gloire à ton nom. Amen.